11h midi, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. Il soutient Ségolène Royal qui s'est fait licencier de son poste d'ambassadrice des pôles. Lui aussi, une fois, il s'est fait radier d'un pôle, c'était le pôle emploi, le compatissant Laurent Barra.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Il a appris que le taux de natalité de la France était en baisse depuis 5 ans, mais ce n'est pas de sa faute. Il veut bien contribuer à l'effort de repeuplement, mais c'est Laetitia Casta qui n'est pas d'accord. Ben H.
Rappelle-moi Laetitia, bonjour la France.
C'est beau d'y croire.
S'il avait dû se faire licencier à chaque fois qu'il a fait une sieste au travail actuellement, je ne serais pas en train de le présenter. Le roi de la pause, Jean-Philippe Busini.
Bonjour à tous, bonjour tout le monde.
Et celle qui ne pourra pas remplacer Ségolène Royal au poste d'ambassadrice des pôles Nord et Sud, car elle est incapable de faire semblant de travailler, Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, nous vous ferons gagner un week-end Thalasso pour deux personnes en hôtel 4 étoiles. On joue à notre jeu, devinez qui je suis. Nous recevrons Pierre-Jean Chalençon, acheteur vedette de l'émission Affaires conclues, qui vient nous parler de son incroyable collection d'objets liés à Napoléon, présentée dans le livre Napoléon, la collection, paru aux éditions EPA Histoire. Puis notre invitée sera Maya Mazorette, auteure et chroniqueuse spécialiste de la sexualité. Je vous sens très intéressée.
Oui, pas du tout.
Qui vient de sortir simultanément deux livres, Le sexe selon Maya, au-delà des idées reçues aux éditions La Martinière, et Sortir du trou, lever la tête aux éditions Anne Carrière.
11h midi, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Alors je voulais quand même vous signaler qu'aujourd'hui se passe un événement majeur en France. L'anniversaire de Ben H.
Oh. Je ne l'ai pas vu venir celle-là.
Joyeux anniversaire.
Ça vous fait quel âge, Ben H?
J'ai 32 ans.
32 ans.
Oui, mon coco.
On dirait 18.
Sois le plus jeune de cette belle équipe.
Non, c'est agréable.
32 ans en plus, vous faites 26.
Maximum.
Ouais, c'est vrai.
Financièrement, non. Il fait 26.
Financièrement, je fais 12.
Merci.
Bon, ça va, il a 32 ans, c'est pas non plus.
C'est gentil quand même, merci.
Europe 1. Ça fait du bien de le dire.
Bon, Ben H, vous êtes préoccupé en ce moment par la famille royale d'Angleterre ?
Oui.
Acteur studio.
J'ai peut-être fait un peu trop. Depuis une semaine, là, c'est la crise pour la couronne. Harry et Meghan ont annoncé leur départ de la famille d'Angleterre et leur intention de vivre par leurs propres moyens. Oh my godness ! Quel courage ! Moi, je peux endurer plein de trucs, hein, la grève des transports, le froid de l'hiver et même une troisième guerre mondiale s'il le faut, je suis solide. Mais que la famille royale se brise, là, ça va trop loin pour mon petit cœur en sucre. Je le comprends, Harry, moi aussi, parfois elle me saoule, ma grand-mère, mais c'est pas pour autant que je vais quitter le pays et refuser le petit chèque à Noël. Cette famille royale a survécu à tout. Les invasions de toute l'Europe, Napoléon Ier, Hitler et les nazis. Et aujourd'hui, tout se casse la figure à cause d'un rouquin amoureux en pleine crise existentielle. Non, je ne peux pas y croire. God save the Queen. Et au-delà de ça, que vont devenir Harry et Meghan désormais confrontés à la dure réalité de la vie? Parce que c'est pas simple de nos jours pour des jeunes qui se lancent et de partir avec presque rien comme eux, là. Comment tu fais aujourd'hui pour t'en sortir avec à peine quelques millions sur un compte en banque? Combien de temps Harry va-t-il pointer chez Pôle emploi avant de craquer? Va-t-il se tourner vers un poste de chauffeur Uber en attendant? Meghan va-t-elle finir avec un mi-temps chez Brioche Dorée pour arrondir les fins de mois? Quand bien même, comment peuvent-ils passer pour des gens normaux en ayant un enfant qui s'appelle Archie? Tant de questions qui nous tiennent en haleine et qui nous font relativiser nos petites existences. C'est important de se dire qu'il y a plus malheureux que nous. Alors merci à la presse People de nous le rappeler, parce que oui, les Français sont dans la rue, mais il y a pire, Harry et Meghan sont à la porte.
Jean-Philippe Busini, vous avez un coup de gueule à passer parce qu'en France, on fait pas assez de bébés?
Oui. Les chiffres de l'INSEE sont tombés. La natalité est encore en baisse. Déjà qu'on sait pas comment payer nos retraites. Alors si en plus les jeunes couples arrêtent de se reproduire, c'est la fin du monde.
Voilà.
C'est fini. Un petit peu de musique, c'est toujours sympa. Et pourquoi on a moins d'enfants? Parce que les Français font pas assez l'amour, tout simplement. Regardez par exemple, autour de cette table, qui fait l'amour plus de deux fois par... Non, c'est peut-être pas le bon exemple. C'est peut-être pas le bon exemple pour les statistiques ici, ouais. Alors, je voudrais m'adresser à toi, cher auditeur, chère auditrice, qui se sent concerné par la survie de notre peuple. Ce soir, pense à moi quand tu feras l'amour. Pense pas à moi parce que tu vas pas y arriver sinon. Pense, cher Odé, pense à la France. pense aux retraites. Voilà, ce soir, quand tu feras l'amour, pense à Philippe Martinez et sa moustache. Non, mais ça va te casser l'envie de faire pas l'amour pendant moins 6 mois si tu fais ça. On reprend. Ce soir, fais l'amour, pense à la France. Pense à Édouard Philippe. Non, ça marche pas, pense pas à ça. Bon, vous voyez, c'est compliqué de relancer la natalité. Et est-ce que vous savez que ça touche tout le monde, pas que la France? Est-ce que vous savez qu'en Suède, pour booster la natalité et surtout pour lutter contre la dépression, ils réfléchissent à l'idée de mettre en place une pause sexe pendant les heures de travail? Alors moi, je trouve que jusque-là, on a bien bossé, ne serait-ce pas le temps de faire une petite pause.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bisini, Laurent Barra, oui. Ben H et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Thalasso pour deux personnes en hôtel 4 étoiles en jouant notre jeu Devinez qui je suis.
Yeah. Une heure de détente avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bisigny, Ben H, Laurent Barra. C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Laurent ?
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Roumanoff.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Alors l'Académie des Oscars a dévoilé lundi la liste des nominations pour 2020. Vous devez deviner des titres de films qui ont été nommés aux Oscars dans la catégorie « Meilleur film ». J'avoue que c'est un questionnaire qui n'est pas évident.
Non, il est très facile.
C'est pour les cinéphiles.
Bah oui.
Vous partez en week-end si vous gagnez avec la personne de votre choix à l'hôtel La Grande Terrasse, hôtel Espa, situé à Châtelaillon, plage aux portes de La Rochelle. Un boutique hôtel 4 étoiles au style cosy et lumineux, entouré de 3 hectares de verdure. Mmh. C'est un hôtel de la collection McGallery by Sofitel avec des chambres vues sur l'océan, un jacuzzi extérieur doté surtout d'un magnifique spa nuxe. Vous bénéficierez en plus de 2 soins à la Thalasso Spa Marin à La Grande Terrasse pour savourer l'ambiance apaisante et feutrée de cette magnifique Thalasso. Allez voir ce très bel hôtel sur le site la-grande-terrasse.com. Et on joue d'abord avec Tiffaine. Bonjour Tiffaine.
Bonjour
Tiffaine.
Tiffaine, vous avez 31 ans, vous êtes ingénieure commerciale, vous habitez à Cergy.
Oui, c'est ça.
Et vous êtes mariée depuis 4 mois.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
Déjà les premiers regrets?
Mais non, pas au bout de 4 mois.
Un petit peu, mais pas beaucoup.
Et vous êtes ensemble depuis 1 an, vous êtes mariée très vite.
Donc, ah ouais, c'est le coup de foudre.
Oui.
À l'américaine. Non,
c'est ça, c'est le coup de foudre américaine, absolument.
Vous l'avez rencontrée comment?
Via une amie dans un brunch qu'elle avait organisé.
C'est ça, voilà, qu'il faut faire.
Les brunchs.
Bah oui, moi je fais des brunchs, mais il y a pas.
Elle en fait 3 par jour, les brunchs. Elle a le brunch de 11h, de midi, de 13h, de 14h. Ouais.
Et ça a été le coup de foudre. Ah, ouais. Dès que vous l'avez vu, bang.
Il a pris un croissant. Bah,
ça a été le coup de foudre. On devait ramener des fruits et on a ramené nous deux en même temps du gingembre. On savait pas qu'on allait ramener du gingembre.
Comment il s'appelle?
Bah, c'est pas encore, c'est trop tôt.
Ahmed.
Hein.
Ahmed. Il paraît, Tiffaine, que vous avez un talent. Vous savez imiter les chiens?
Eh ben alors, on doit bien s'amuser.
Oui.
Montrez-nous.
Mais c'est un teckel.
On va envoyer le dossier à M6 immédiatement.
Vous avez pensé en faire un métier parce que c'est bluffant. Je suis prêt à payer ma place pour voir un truc.
Est-ce que ça sert dans votre vie de tous les jours de savoir imiter les chiens, Tiffaine?
Non, pas du tout.
Vous avez été approché par des producteurs déjà?
Vous avez un agent? Est-ce que vous avez un agent?
Ah oui.
Non, mais par exemple.
Non, mais faites des auditions.
Attention, non, mais moi qui sais imiter les chats, est-ce que.
Attention,
on parle de professionnel.
Garfield!
Peut-être faire un duo à ce moment-là.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que parfois vous vous amusez à imiter un chien et le chien tourne la tête vers vous en croyant que c'est un autre chien, puis après il voit que c'est vous?
Et on sent que vous avez déjà fait ça.
J'ai pas encore essayé, mais il faudrait que j'essaie.
Ah, que moi, quand j'imite un chat, le chat il me regarde, il croit que c'est un autre chat.
Alors vas-y, faites le chat juste pour voir.
Faites le chat pour voir, parce que
c'est intéressant.
Ouais, on est très curieux d'entendre oui. le chat d'Anne.
Vous nous ramenez un bol de Whiskas. Allez, on peut y aller.
Des croquettes.
Un chat un peu dépressif.
C'est incroyable.
Ouais, ouais, c'est bluffant.
Attends.
Non, c'est pas fini. S'il vous plaît.
Le public ne s'y trompe pas. Le public reconnaît le talent.
S'il vous plaît.
Mais c'est Anne Roumanoff, c'est pas n'importe qui quand même.
Ne dérangez pas l'artiste.
Derrière, il y a une carrière, il y a tout ça. C'est quand même.
Oh là là, c'est magnifique.
Et le prix de l'interprétation.
Non, mais je te jure que les chats.
Bah là, je vois dans 4.
Mais oui,
bah
oui.
Non, mais les chats, et ça me fait pareil.
Envoyez
avec.
Envoyez votre CV à Pixar, ils vont vous prendre pour le prochain Disney.
Quand j'étais petite, à la campagne, il y avait un âne.
Faites l'âne, parce que oui. Est-ce que vous voulez qu'elle fasse l'âne?
Oui, oui le c'est que là, on va se retrouver avec une bergerie à l'extérieur. Hein.
Le public vous réclame, Anne. Vous
non, pouvez... et donc l'âne, quand oui. je faisais l'âne, il croyait que j'étais un autre âne.
Vous avez eu une enfance un peu compliquée. Ah,
et il venait derrière nous voir.
Ah oui, il vous a pris pour un des siens.
Je ne l'ai pas fait depuis très longtemps.
Ah, bah, oui. Non, mais faites-le quand même.
Je crois que j'ai un peu perdu.
Ah, timide l'âne.
C'est comme le vélo.
Un âne asthmatique, mais un âne quand même, oui.
Moi je le fais bien. Moi je le fais mieux.
Alors attention parce que.
Oui, ça m'étonne pas que tu fasses bien là.
C'est pas mal. Je pense. Où que... est-ce que ça a merdé là?
Je pense qu'on a touché le fond.
Est-ce qu'on continue à gagner des auditeurs ou on en perd là, à ce moment-là?
On a gagné 38 000 auditeurs.
Oui, mais en faisant l'âne, je suis pas sûr qu'on continue comme ça.
Tiphaine, vous êtes prête à jouer? C'est Laurent Barra.
C'est Laurent Barra.
Tu imites très bien les chiens.
Il manque plus que Ben H. Alors Ben H, fais-nous
miaou,
la...
miaou.
Mais c'était une émission culturelle, il y a encore un
miaou, miaou.
Alors, je pense qu'il vaut mieux qu'on joue là.
Ouais. Liste 1, liste 2. Ah, non, ok.
Liste 1.
Et vous jouez avec qui?
Le chat, le dindon, la poule.
Ben H.
Elle a choisi le sérieux.
Il faut vraiment vous concentrer parce que ce sont des titres de films qui ont été nommés aux Oscars. Et c'est
pas forcément récent.
Pas forcément récent. Vous êtes prêts? Attention, top chrono.
C'est avec Tom Hanks, il n'arrête pas de courir. Il court.
Forêt
en anglais.
Forrest Gump.
Ouais. C'est des beaux gosses à l'époque romaine, ils se battent dans des arènes.
300.
Non, c'est l'autre, très connu avec une musique triste, à la fin il meurt.
Ah, je sais pas.
C'est encore avec Tom Hanks, c'est dans le couloir de la mort avec un grand monsieur noir qui va mourir, il a des pouvoirs magiques. Oui, c'est ça. C'est avec Roberto Benigni dans les camps de concentration, il protège son fils en lui disant.
La Fébelle.
Oui, c'est ça. C'est une danseuse de ballet, Nathalie Portman, avec Vincent Cassel. Et c'est un âne. Non, pas un âne.
Un cygne.
C'est une comédie musicale avec. C'est une comédie musicale qui est sortie récemment, qui a eu un Oscar.
Black Swan.
C'est pas mal.
1, 2, 3, 4 bonnes réponses, vous avez bugué sur Gladiator.
Oui, Gladiator, oh la vache.
Ah la vache.
c'est pas mal quand même, Tiphaine. Hein, on va voir comment se débrouille Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Bonjour Anne, bonjour à toute l'équipe.
Vous êtes en reconversion professionnelle, vous habitez à Lessard-le-National dans le 71.
Oui, c'est ça.
Reconversion professionnelle, ça veut dire que vous êtes au chômage?
Exactement.
D'accord, et vous voudriez faire quoi?
Je m'oriente vers la prévention des déchets dans les entreprises.
D'accord.
Et sinon, je milite aussi pour le retour de la consigne sur les bouteilles en verre.
Ah, c'est bien. Olivier, c'est compliqué, hein, des films nommés aux Oscars, vous jouez avec qui?
Je vais jouer avec Jean-Philippe.
Ok, c'est bon, on a gagné.
Il faut dépasser 4 bonnes réponses. Attention, vous êtes prêt à jouer, Olivier?
Ouais.
C'est parti.
Top chrono.
C'est un bateau qui coule avec DiCaprio.
Titanic.
Ok, c'est Jean Dujardin, c'est un film muet en noir et blanc. Allez.
Ouais,
c'est un film indien avec Qui veut gagner des millions?
Slumdog Millionaire.
Ouais, c'est un film de Quentin Tarantino.
Quoi?
C'est avec Samuel Luke Jackson, John Travolta, Quentin Tarantino.
Allez. Oui, je vois, mais je
ouais. C'est deux mecs qui vont dans la montagne, ils se rendent compte qu'ils sont homosexuels et ils font l'amour dans une tente. C'est le.
Montagne.
Ouais, ouais.
Non.
C'est Mel Gibson qui est écossais. Mel Gibson qui est écossais, il a un kilt, il est sur un cheval.
Bravo, Tiphaine.
Aïe. 3 bonnes réponses. C'est dommage, vous avez bugué sur Pulp Fiction. En plus, madame était derrière qui vous aidait. On l'entendait.
J'ai même fait la bande annonce.
Tu l'as très bien fait.
Ça, c'est Rabbi Jacob.
Et le secret de Brokeback Mountain. Alors, Olivier, comme vous êtes très sympathique et puis que vous êtes un petit peu dans la loose, vous pourrez rejouer avec nous d'ici un mois.
Avec tout notre amour.
Et vous qui vous intéressez aux déchets, Europe 1 vous offre. Non, mais alors.
Vous offre Ben H.
Non, c'est pas ça que je voulais dire.
Vous aimez les déchets? Non. Ben H.
Vous qui vous intéressez, c'est pas ça que je voulais dire. Vous qui vous êtes sensible à la nature, à l'environnement, au climat et aux déchets, Europe 1 vous offre une station météo connectée pour connaître le temps qu'il fait.
Voilà. Si vous n'ouvrez plus les volets.
Merci à toute l'équipe.
Merci à vous.
En plus, on vous offre aussi 2 places de cinéma pour le film 1917 de Sam Mendes, sorti mercredi en partenariat avec Europe 1.
Ah super, ouais, merci beaucoup.
Donc vous avez 2 cadeaux, même si vous n'avez pas gagné, et vous rejouez avec nous d'ici un mois. Tiphaine, bravo.
Merci.
Bravo Tiphaine.
Un petit cri de joie, Tiphaine. Vous partez en week-end pour deux personnes avec votre chéri Ahmed à l'hôtel La Grande Terrasse, hôtel et spa, situé à Châtelaillon, plage aux portes de La Rochelle. C'est un hôtel 4 étoiles de la collection Mac Gallery by Sofitel. Vous bénéficierez en plus de deux soins Thalasso Spa Marin La Grande Terrasse. Plus d'infos sur le site la-grande-terrasse.com. Et en plus, vous avez aussi gagné, vous aussi, deux places de cinéma pour le film 1917 de Sam Mendes, sorti mercredi en partenariat avec Europa.
Trop cool, trop bien.
En tout cas, continuez à nous écouter, Tiffaine, on vous embrasse.
Merci beaucoup, merci à toute l'équipe.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr. Restez avec nous sur Europe 1. On se retrouve dans quelques instants avec Jean-Philippe Vizini, Laurent Barra, Ben H et notre invité Pierre-Jean Chalençon, vendeur emblématique d'Affaires Conclues, qui vient nous parler de son livre Napoléon, la collection, paru aux éditions EPA Histoire.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Ben H, Jean-Philippe Vizini, Laurent Barra et notre invité, acheteur vedette d'Affaires Conclues, reconnaissable à son incroyable chevelure blonde et bouclée, le Paul Narev des ventes aux enchères et avant tout l'empereur des collectionneurs napoléoniens. Il lui a fallu 30 ans de passion pour Napoléon, Bonaparte et l'Empire afin de constituer sa collection qui rivalise avec les plus grands musées et qui réunit les objets les plus précieux et les reliques les plus rares. Il nous en fait profiter avec son livre Napoléon, la collection aux éditions EPA Histoire qui, à travers 200 objets, raconte l'Empire, les bataille et l'intimité de Napoléon. Faites une nez d'honneur pour accueillir Pierre-Jean Chalençon. Bonjour Pierre-Jean Chalençon.
Bonjour Anne.
Bienvenue sur Europe 1. Alors, déjà, votre nom est original parce que Jean-Pierre, ça rendrait moins bien.
Pierre-Jean, c'est vrai. C'est plus
trop commun, Jean-Pierre.
Mais c'est ce qu'a pensé ma mère, je pense.
Alors, Pierre-Jean Chalençon, votre passion pour Napoléon Bonaparte remonte très très loin. Dans votre enfance, tout démarre avec un livre que vos parents vous offrent, une BD sur Napoléon. Vous n'avez que 8 ans.
Oui, 8
ans. Et c'est le coup de foudre.
C'est le coup de foudre. Je suis tombé dedans comme Astérix.
Qu'est-ce qui vous a tellement plu chez Napoléon ?
Côté un peu self-made man, un peu Superman. Au départ, d'ailleurs, je pensais qu'il n'existait pas. C'est mes parents qui m'ont dit « Mais si, on va t'emmener au château de la Malmaison. » Et cet homme a existé. Moi, je pensais que c'était un peu comme un comics, quoi. Qui volait, qui... Il avait des super pouvoirs.
Alors, vous avez une chaîne qui fait beaucoup de bruit, là. Hein,
d'ailleurs, ouais, c'est un cadenas. C'est pas une chaîne, c'est une statue.
C'est un antivol. On m'appelle Mr. T de France 2.
Vous la gardez tout le temps, cette chaîne, autour du cou ?
La nuit, je l'enlève.
Ah oui ?
Oui.
Mais c'est pas facile de nager avec ça.
Vous non, sinon c'est Titanic. Ah mais je suis très Titanic. Hein.
Ah ouais.
Ah oui, plutôt.
Mais ça fait du bruit. En plus, vous avez des gourmettes.
Ah mais je suis bling bling.
Ah ouais. Ah oui. Vous avez des bagues qui brillent.
Ah oui, je suis.
Pierre-Jean, vous arrivez combien de temps avant à l'aéroport
Alors, c'est une très bonne question parce que depuis un mois et demi avec toutes ces grèves, j'ai beaucoup passé de temps à Roissy ou à Orly. À mon avis, ils me connaissent tous.
Clairement.
Ah non, lui, c'est plus la peine.
Parce que vous devez tout enlever.
Ah, j'enlève tout. C'est terrible. C'est au moins 15 minutes. Ouais.
Et alors, quand même, c'est quand même bizarre cette histoire. À l'âge de 11 ans, votre mère vous offre un décret impérial et vous dites c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à être collectionneur.
Ouais,
c'est quand même plus facile de collectionner les vignettes Panini, non ?
Mais j'aurais dû. Mais...
Surtout à 11 ans.
Non, mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai même vendu. Ma mère m'achetait une canadienne, elle m'achetait des fringues et j'allais les revendre à des copains ou des copines. Et ma mère me disait, mais elle est où ta canadienne ? Il est où ton jean à trous ? Enfin, je n'avais pas de jean à trous à l'époque, mais enfin. Et en fait, tout ça, ça me permettait d'acheter des objets, enfin des petits objets, des lettres, des trucs comme ça. Et les marchands, d'ailleurs, ne voulaient pas me vendre. Ils me disaient, mais garde ton argent, dépense. Non, laissez-moi acheter.
C'est très bizarre, hein, quand même.
Faites pas trop de gestes avec votre main, Véran, parce qu'elle va se prendre une bague dans la tempe.
En plus, chaque fois qu'il secoue la main, ça fait un bruit. Il faut secouer devant le micro pour que les gens entendent. Ah non, mais regardez ça, c'est pas possible.
Ça fait très castagnette, c'est le côté Luis Mariano.
4 kilos à chaque bras.
Vous avez de quoi régler le problème des retraites en une main, là.
Oui, c'est d'ailleurs.
Est-ce que c'est des
Emmanuel
vrais,
Macron m'a téléphoné pour que je règle.
Alors, Pierre-Jean Chalençon, on va parler de ce livre, Napoléon, la collection. Donc là, ce sont tous les objets que vous avez collectionnés, pris en photo.
Oui, ça, c'est les objets qui sont à la maison. Au palais.
Vous n'avez pas peur de vous faire cambrioler là ?
C'est des objets invendables, alors je veux bien que les gens viennent les chercher, mais ils ne pourront pas les revendre.
Bah, donnez-moi le nom du cambrioleur qui va venir piquer le caleçon de Napoléon.
Oui, et bah écoutez.
Pourquoi ils ne pourront pas les revendre ?
Parce que ce sont des objets qui ont une traçabilité, ils sont connus. Et tant que si ce n'est pas moi qui les vends, des grandes maisons comme Sotheby's, comme Christie's, etc.
Ils savent. Voilà. Et en plus, le fait que vous les ayez mis en photo dans votre livre, ça les protège.
Tout à fait.
C'est pour les assurances que vous avez fait ce livre.
Bravo, ma chère Anne. Bravo.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Pierre-Jean Chalençon, venu nous parler de son livre Napoléon, la collection, un livre qui retrace tous les objets qu'il possède consacrés à Napoléon. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, ouais, Ben H, ouais, Laurent Barra. C'est mes grenadiers à moi.
C'est la grande armée.
Oui. Et nous, et moi, je suis leur Joséphine. Oui. Et nous sommes donc avec Pierre-Jean Chalençon, venu nous présenter son livre Napoléon, la collection, aux éditions OPA Histoire. Alors, Pierre-Jean Chalençon, est-ce qu'après toutes ces années, vous continuez à apprendre des choses que vous ignoriez sur Napoléon ? Parce que j'imagine que vous avez lu tous les livres le concernant.
Bah, j'en ai lu beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu faire celui-là, en me disant, c'est pour ça, pour les gens qui ne savaient pas forcément. On apprend tous les jours, oui, beaucoup, beaucoup. Je lis beaucoup dans les livres anciens, j'achète beaucoup des livres du 19e siècle. Donc là, on apprend beaucoup de choses.
Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur Napoléon, Pierre-Jean Chalençon ?
Eh bien, Napoléon était quelqu'un qui était drôle, qui avait beaucoup d'humour. Il n'était pas forcément petit, parce que souvent les gens disent ah ben, Napoléon était petit. Il faisait 1m68,6.
Il n'était pas grand.
Non, mais.
Très mauvais au basket.
1m68, oui, très mauvais au basket. Mais 1m68,6.
À l'époque, c'était.
C'est 1m80. Ça, ouais. Ça représente 1m80. Donc Napoléon n'était pas si grand.
Ça représente 1m80 maintenant.
Maintenant. Donc,
et Joséphine, elle mesurait combien, Pierre-Jean Chalençon ?
Et Joséphine, elle mesurait 1m52.
Ah bon ?
Et elle n'était pas grande.
Ah bah non.
Et quand elle a d'ailleurs, c'est assez amusant, quand Napoléon mangeait très vite, le midi, 5 minutes, quand vous étiez invité à déjeuner aux Tuileries, vous ne mangiez pas, il fallait manger soit avant, soit après.
C'est pour ça qu'il a eu un ulcère à l'estomac.
Je pense qu'il a eu peut-être aussi à cause de ça. Alors que Joséphine, on parlait de Joséphine, quand ils ont divorcé, elle a pris 30 kilos en 6 mois.
Oh non, mais non.
Ah ouais, et Napoléon, vachement sympa, il lui dit, émotive. Quelques temps après, il lui envoie une lettre, il lui dit ma chère Joséphine, depuis que nous nous sommes quittés, j'ai appris que tu étais devenue bien grasse.
C'est
le mec, il est sympa.
Il est méchant.
Bon, il était comme à l'époque.
Quoi. Et Marie-Louise d'Autriche, alors c'était ça
Alors, Marie-Louise d'Autriche, c'était une coquine. Elle l'a
bon
dit. Ah, voilà. Ah, une grosse coquine.
Ah bon
yeah. Il l'a rencontré, il se l'est tapé tout de suite dans le carrosse. En forêt de Fontainebleau.
Ah oui.
Ah, je vous assure que c'est vrai. Et il est ressorti. De là, il était tout heureux. Et il a dit, disons, les Autrichiennes, elles ont du tempérament.
Et pourquoi ils étaient tous les deux dans le carrosse ?
Ben parce qu'il y avait la grève. Il y avait la grève.
Il y avait la grève de la RATP, de la SNCF. Et donc, il n'y avait pas de transilien.
Comment vous savez qui s'est tapé Marie-Louise dans le carrosse ?
Parce que j'ai récupéré le caleçon.
Parce qu'il y avait des témoins et on l'a su. Ah non, mais c'est assez étonnant. Et pour enfin,
ils étaient tous les deux dans le carrosse.
Ah oui, oui, heureusement. Oui. Ouais. C'était quand même pas.
Et Napoléon, il était comme ça, prompt à tromper Joséphine.
Non, ils s'étaient séparés.
Ah, ils étaient déjà
séparés. Il avait répudié. Il était à nouveau célibataire et donc il a attendu. Il était très chaud. Et voilà. Mais bon, Marie-Louise.
Et vous avez combien de différence d'âge, Napoléon et Marie-Louise ?
Écoutez, je vais vous dire ça, je crois qu'il y avait 22 ans.
Ah oui, quand
ans,
même.
Il y avait plus d'une vingtaine d'années.
Si vous prenez l'émission en marche, on est toujours en 2020. Hein,
oui, oui.
Et ouais, Joséphine, elle a refait sa vie, Pierre-Jean Chalençon ?
Non, elle n'a pas refait sa vie. Elle est morte quelques années. Elle est morte en 1814. Elle a voulu faire un brin de séduction au tsar. Et elle s'est promenée dans le bois de Saint-Cucufa, à côté de Rueil-Malmaison. Elle a attrapé un coup de froid. Elle est morte en une semaine, 1814, le 30 mai 1814.
Et Alexandre Ier, il n'était pas intéressé par Joséphine ?
Il était intéressé plutôt par les garçons, lui.
Ah.
Une vieille copine.
Alors, Pierre-Jean Chalençon, à 18 ans, vous dépensez l'argent offert par vos parents pour votre crédit voiture dans l'acquisition du premier testament de l'empereur.
Oui.
Non, mais ils ont dû se dire, ce garçon est fou quand même.
Totalement barré. D'ailleurs, je n'ai toujours pas le permis.
Plus tard, vous avez un prêt bancaire étudiant financé par votre père et vous le passez dans l'achat d'une mèche de cheveux de l'empereur coupée à Sainte-Hélène.
Tout à fait. J'ai arrêté l'école au bout de 6 mois parce que j'avais plus d'argent, j'avais la mèche de cheveux. Donc.
Non, mais vos parents, ils ont dû s'énerver. Ah,
mes parents étaient très inquiets.
Ben, forcément. Ben, moi, j'aurais un énergumène comme ça, comme enfant, je m'inquiéterais. Ouais.
Très, très inquiet.
Ouais.
Ouais, c'est drôle. Ça va, aujourd'hui, ils sont un peu rassurés quand même, mais bon.
Et alors, vous avez donc acheté ce palais Vivienne, racontez-nous. Alors,
Écoutez, c'est un.
C'est rue Vivienne.
C'est rue Vivienne, et c'est un endroit que j'ai acheté il y a maintenant 5 ans, et je l'ai acheté pour mettre la collection. Parce que bon, moi j'ai 49 ans, je suis célibataire, et je me suis dit, écoute, il faudrait un écrin pour cette collection. Comme je souhaite faire don à l'État français de ma collection.
Ah oui ?
Ah oui ?
Oui,
parce que vous ne voulez pas le faire don à des gens comme ça que vous rencontriez, que vous trouveriez sympathique.
Sympa. Voilà.
Et ben, une gourmette. Cœur, la belle rencontre.
Au détour d'une émission
voilà.
Radio.
Et ben, alors je suis en train de faire un
est-ce que vous voulez que vous cherchez un café, par exemple ?
Fond, voilà. Écoutez, donc
un petit café vous ferait plaisir.
Sans sucre. Non, non. Donc il fallait un écrin pour le.
Vous voudriez vraiment donner votre collection à l'État français.
Oui, je souhaite offrir cette collection, ainsi que le palais, à la France.
Pourquoi vous dites que c'est un palais? C'est vraiment un
parce
palais.
Parce que c'est le palais du duc d'Orléans. C'est la dernière résidence royale en main privée à Paris. C'est 600 mètres carrés de salon d'apparat. Et
comment vous faites pour entretenir ça?
Ah bah ça, ça coûte une fortune.
Les Swiffer, beaucoup de Swiffer.
Tout y passe. Non, mais pour ça que je fais beaucoup le ménage. Je cire, je nettoie moi-même. Je suis une
vous nettoyez pas 600 mètres carrés tout seul, Pierre-Jean Chalençon?
Bah, j'essaye. Non, mais je fais beaucoup de choses.
Il paraît que vous louez cet endroit.
Alors
c'est
on
ça
le loue
vous
pour faire des visites privées. Alors j'en ai fait une ce week-end.
Vous logez des gens dans 600 mètres carrés?
Ah non, je me loge.
Pourquoi pourriez faire une chambre d'hôte?
Allez, le reproche.
Je n'ai qu'une chambre.
Mais oui. Comment ça, vous n'avez qu'une chambre?
Mais bon, si vous venez la visiter, il n'y a pas de
non, système. Ça va aller, non. je suis au fond du désespoir, mais pas à ce point.
Destiné.
On n'est pas destiné.
Merci Pierre-Jean Chalençon d'être passé nous voir. On rappelle votre livre Napoléon, la collection, qui présente tous vos objets de Napoléon. Et puis on peut aussi les voir au Palais Vivienne en réservant sur le site. Donnez l'adresse.
Palais Vivienne. Visite à palaisvivienne.co.
Merci Pierre-Jean Chalençon. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec une invitée que les auditeurs, que les chroniqueurs attendent impatiemment. Maya Mazorette, auteure et chroniqueuse spécialiste de la sexualité, qui vient de sortir simultanément deux livres, Le sexe selon Maya, au-delà des idées reçues aux éditions La Martinière, et Sortir du trou, lever la tête aux éditions Anne Carrière. Je vous sens au taquet.
Oui, on est là.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Laurent Barra. Et nous recevons maintenant une autrice, chroniqueuse et illustratrice qui officie depuis 2015 dans le journal Le Monde. Elle vient nous présenter non pas un, mais deux livres, Sortir du trou, lever la tête et Le sexe selon Maya, au-delà des idées reçues. Autant vous dire qu'on n'est pas là aujourd'hui pour parler cuisine. Merci d'accueillir chaleureusement Maya Mazorette. Bonjour Maya Mazorette.
Bonjour.
Maya Mazorette, vous sortez simultanément deux livres sur la sexualité, Sortir du trou, lever la tête, paru le 9 janvier aux éditions Anne Carrière, et Le sexe selon Maya, au-delà des idées reçues, paru le 9 janvier aussi aux éditions La Martinière. Deux livres en même temps?
Oui, absolument, c'est pour pouvoir lire à deux au lit et puis éventuellement pouvoir les lire tête bêche en 69.
J'ai lu tout seul, moi. J'ai lu tout seul, mais en tête bêche.
Oh là là, mais je suis tellement désolée pour vous. Eh ben, vous avez bien besoin de mes conseils.
Oui.
Par exemple, quand vous avez un partenaire, ça ne lui met pas trop la pression?
Ah ben grave, moi je voudrais. Il fallait écrire un bouquin, quoi.
Ah ouais. C'est vrai que je pourrais écrire un livre entier sur la question, oui. C'est une très bonne idée.
Tu te dis, je vais finir dans le tome 2, moi encore.
oui, mais bien sûr, mais c'est exactement ça. En fait, bon, alors moi j'ai une vie de couple, mais les hommes qui pourraient être intéressés par moi en tant que partenaire sexuel me disent, mais j'oserais jamais coucher avec toi parce que j'aurais beaucoup trop peur. Mais c'est même pas la question en fait d'écrire un livre sur la question ensuite. C'est la question d'être jugé. Et c'est très marrant parce qu'en sexualité, souvent, on est tellement vulnérable, on a peur d'être jugé. Alors que tout le monde juge tout le temps et que si on ne jugeait pas les autres, ce serait une espèce de défaite de l'intelligence aussi.
On a plus peur, enfin c'est vraiment intime.
Toi, tu n'as pas confiance en toi. Toi.
Mais ça c'est aussi une réflexion d'homme, vous voyez. Parce
mais l'homme, je pense que l'homme est plus timide, enfin a plus peur de se faire juger que la
bien
femme.
Bien sûr, parce que jusqu'à
la
présent...
La société nous renvoie l'image de l'homme fort.
Mais laissez-moi terminer ma
phrase. Oui, laisse-la parler, s'il te plaît.
Excusez-moi, il a bu.
Non, mais c'est un sujet que je maîtrise quand même pas mal.
Non, la performance sexuelle repose encore aujourd'hui beaucoup sur les hommes. Et on voit bien qu'il y a 44% des hommes qui disent avoir déjà souffert de devoir performer sexuellement. Voilà. Et que finalement, ce serait intéressant si les femmes se posaient plus souvent la question de savoir si elles sont compétentes, bien si sûr. Elles vont être jugées, pourquoi, voilà. Pas
merci.
Forcément l'étoile
bien
de mer.
Voilà. Chérie, voilà, tu nous écoutes.
L'étoile de mer, c'est quoi faire l'étoile de mer? C'est la femme qui reste inerte.
Et exactement, avec les bras et les jambes écartés. Et puis l'équivalent masculin, c'est le concombre de mer.
C'est quoi le concombre de mer?
Ah non, on va pas vous faire un
croquis. C'est pareil, c'est le type qui reste inerte et qui attend qu'on vienne le chevaucher.
Je vais vous faire un dessin, attendez.
Ah oui? Ouais. Ah oui, je ne connaissais pas le concombre. L'étoile de mer, j'avais entendu parler,
mais le concombre de mer.
Vous avez déjà été, vous, confronté à des étoiles de mer?
Oui.
Bah, oui.
Il n'y a pas si longtemps.
C'est vrai? C'est un cauchemar pour les hommes, ça?
C'est pas un cauchemar, parce que pour moi, l'amour est une fête, mais. et je sais être festif. Pour faire un bon match, il faut deux bonnes équipes. Et
ça me fait plaisir que vous disiez ça. Les conditions ne sont pas toujours réunies,
exactement.
En fait. Il y a 40% de femmes qui prennent rarement ou jamais l'initiative sexuelle. Il faut bien voir que quand elles le font, elles ont tendance à être jugées pour ça.
Mal jugées, effectivement.
Oui, voilà. On
appelle
ça.
Est-ce que vous allez prendre l'initiative sexuelle? C'est quoi exactement? C'est-à-dire déclencher?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire pouvoir demander. On dit souvent, en fait, les hommes proposent, les femmes disposent. Et ben, c'est justement pas faire que disposer, être aussi une forme de proposition.
Bien sûr.
Avoir des envies, avoir des fantasmes, c'est-à-dire travailler éventuellement sur son désir, s'inspirer en lisant des bouquins, en regardant Netflix. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un espèce d'imaginaire qu'il faudrait construire pour que les femmes prennent la permission d'être plus actives au lit. Et puis, les hommes aussi, des fois, faire un pas en arrière pour laisser le désir des femmes s'exprimer.
C'est ce que j'essaye de faire. Mais en plus, je suis asthmatique, pour vous dire. Mais, mais c'est vrai que...
Oui, donc vous dites, il n'y a pas que la pénétration, il y a d'autres, d'autres types.
Bien sûr, il y a tellement de choses à faire. Et puis, c'est vrai que quand on se met la pression de dire il faut deux pénétrations par semaine et que c'est toujours la même pénétration, évidemment qu'on s'ennuie parce qu'on fait toujours la même chose. Quand on s'ennuie, on est aussi moins présent à soi, à son partenaire. Du coup, on a l'impression que ça renforce un peu cette espèce de cycle de l'ennui. Donc moi, je propose aux gens, à travers mes livres aussi, d'élargir le répertoire pour faire quelque chose de très solaire, très lumineux et qui ne passe pas forcément par des pratiques un peu hard, qu'on appelle la sexualité pimentée. Vous avez lu ça, évidemment, dans tous les magazines.
Il faut pimenter sa vie sexuelle. La sexualité vanille.
Voilà, c'est ça. C'est toujours, sinon, un petit peu, on va s'attacher, on va se taper dessus, on va aller dans des orgies. Et c'est très chouette tout ça, mais c'est vrai que ça ne marche pas pour tout le monde et puis que ça peut blesser beaucoup de personnes, notamment les jeunes qui commencent leur sexualité. Donc moi, je propose des alternatives, mais qui ne blesse jamais.
C'est quoi comme alternative ?
Eh ben moi, je propose...
Attendez, je note, parce qu'il faut que...
Très bien.
Allez-y.
Je propose les masturbations guidées, partagées, les massages prostatiques.
Prostatiques ?
Les sextoys, bien sûr.
C'est dans les fesses, dire...
Ah oui, alors très bien, parlons ça. Parlons prostate.
C'est le doigt dans les fesses, hein, ça.
Oui, tout à fait, exactement. 22%.
Ouais, bah oui, maman,
des Français et des Françaises ont déjà essayé. 22%, c'est pas mal, quand même. Non, ça marche, cette histoire, parce que jusqu'à présent, là, on a beaucoup parlé du fait que sur le corps des femmes, on parlait pas du clitoris, c'est-à-dire qu'il restait plus que le vagin. Mais il faut faire maintenant la même déconstruction sur le corps des hommes. Et on parle toujours du sexe masculin comme étant juste le pénis. Mais le système génital masculin, c'est aussi les testicules, c'est aussi la prostate. Et là, on s'aperçoit que quand on stimule les hommes de l'intérieur et de l'extérieur, on obtient ce qu'on appelle des super orgasmes qui sont plus longs, plus intenses et plus profonds que les orgasmes obtenus simplement avec la stimulation du pénis. Donc il y a encore un espèce de
champ
incroyable de la sexualité comme ça dont on ne parle pas alors qu'elle marche très bien, qui sont des pratiques qui font pas mal, qui ne sont pas techniquement difficiles à faire du tout. Mais donc voilà, libérons les hommes maintenant qu'on a libéré les femmes.
En ce moment, je suis en pleine reconquête sentimentale. Comment je peux présenter à une jeune femme, parce que mes histoires ne marchent pas beaucoup sur la longueur, mais comment je peux lui présenter Bayan, j'aimerais bien une petite exploration prostatique.
Il y a le célèbre dicton, doigt dans le cucu, jamais déçu.
Ou même les pros se tâtent. Mais bon, quand même, là, c'est vrai que c'est compliqué.
Tu lui offres le livre et elle le lit.
Ah oui.
Y a tout un vocabulaire et peut-être tout simplement dire, voilà, il y a cette chose formidable qui marche très bien, qui est le massage prostatique, pouvoir éventuellement dire j'en ai rêvé cette nuit, pouvoir reposer par exemple sur les séries télé, sur les films.
Mais à part
où on
ça,
voit
vous
n'avez
pas d'autres suggestions? Parce que moi, ça ne me branche pas trop. Ouais.
Oui, ah bah, les sextoys par exemple, parlons un peu technologie, ça permet d'avoir des sensations physiques qui, littéralement, n'existaient pas avant ces dernières années. Pour vous, une femme disposant d'un clitoris, je présume, il y a depuis 2 ans des pulsateurs clitoridiens qui utilisent les ondes sonores pour stimuler le clitoris. Ouais, ça n'existait pas avant. Donc c'est un peu comme des vibromasseurs augmentés.
Pulsateur
clitoridien, ça coûte pas très cher.
En fait, c'est Céline Dion qui te chante dans le clito.
Non, ils ont pas encore fait la version Céline Dion, ça serait intéressant.
Fabien, il y a un truc à faire.
Ouais, vous êtes un vrai entrepreneur dans l'âme en fait. Hein.
C'est ça.
Un vrai psychologue. Donc ça, c'est ça. Bon, et alors
pulsateur clitoridien, il y a aussi, il y a aussi plein de choses pour les hommes. Là, il y a des machines à fellation avec intelligence artificielle. Et oui.
C'est pas vrai. Ça coûte combien ça?
Je crois qu'ils sont à $260, un truc comme ça.
Dollars.
Ouais.
Bon, c'est moins cher qu'un iPhone.
Moi, je suis sur Amazon, là, j'en ai commandé. Qui en veut, moi, je...
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission passionnante et un petit peu épicée aujourd'hui avec Maya Mazorette, venue parler de son livre Sortir du trou, lever la tête et le sexe selon Maya, une compilation de ses chroniques dans Le Monde. Je rappelle qu'elle écrit dans Le Monde. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bisigny, Ben H, Laurent Barra et notre invité Maya Mazorette, venue parler de ses deux livres, Le sexe selon Maya et Lever la tête, sortir du trou. Ah, alors, mais vous, c'est pas que un livre de conseils sexuels en fait, il y a vraiment aussi un regard, on va dire, par le haut de la sexualité.
Par le haut,
oui. Un regard global, je veux dire.
La souplesse.
Oui, il y avait vraiment des choses que j'avais envie de défendre sur l'intégrité du corps féminin notamment. Donc quand j'appelle l'un des deux livres « Sortir du trou », c'est parce que je me suis aperçue en fait en travaillant pour Le Monde que quand je regardais les schémas anatomiques du vagin des femmes, il était présenté comme ouvert, en permanence ouvert, ou alors éventuellement avec un petit renflement au bout pour le fermer. Et que c'était cette espèce de corps creux, négatif, passif, auquel on est souvent envoyé en tant que femme. Alors que moi, mon expérience de mon sexe personnel, et je crois pas mal de femmes quand même, c'est qu'il y a des muscles, c'est qu'il y a des terminaisons nerveuses, que c'est très vivant, cette partie-là de mon corps, que je suis pas seulement une forme, une force réceptive au lit, et que j'avais envie de dire, alors non seulement il y a le clitoris, mais il y a aussi le fait, moi, qu'on arrête de me dire que je suis creuse à l'intérieur. Parce que, évidemment, c'est pas juste une question sémantique ou juste une question sexuelle, c'est aussi une question sociale. Si les femmes, elles sont vides, molles, un peu creuses à l'intérieur, il va de soi que quand elles prennent la parole, que quand elles essayent d'investir les champs professionnels, par exemple, eh ben, elles attendent un peu d'être comblées, elles sont un peu en demande, elles ne sont pas très sûres d'elles-mêmes. Et puis ça marche aussi, bien sûr, pour les hommes. Si le sexe des hommes, c'est que le pénis et que ce pénis est toujours en érection, alors il y a une idée que les hommes sont comme ça, rigides, qu'ils ont une espèce de rectitude morale, qu'ils sont très sérieux. Et que tout ça se transforme en rôles sociaux.
Très bien. Alors, non, vous avez publié plein de livres passionnants, Maya Mazorette, La revanche du clitoris,
oui. Ouais.
L'anti-Kamasutra à l'usage des gens normaux,
ouais.
Peut-on être romantique en levrette, 69 questions pas si absurdes sur le sexe,
c'est une bonne question.
Le guide du râteau.
Ah, ça, ah, Laurent.
Ouais.
Tout ça.
Ouais, ouais, ouais.
Et tous ces livres se vendent bien, j'imagine.
Ouais. Ah bah sur la sexualité, c'est sûr qu'il y a, il y a un intérêt. Mais là, je pense, depuis le mouvement MeToo, donc depuis 2 ans et des poussières, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a de plus en plus de publications. Et cette année, enfin l'année précédente, en 2019, ça a été vraiment extraordinaire pour moi en tant que lectrice de voir comme ça une nouvelle génération de femmes et d'hommes qui investissent ces sujets, qui ont plein de théories surtout. Et c'est vrai que c'est super. Des fois, on a l'impression que c'est trop, qu'on est perdu, que les codes changent. Mais je me dis, mais quelle chance de vivre aujourd'hui, alors que justement, on est en espèce d'ébullition intellectuelle, technologique, philosophique par rapport à ça, et de se dire, là, on a la chance de pouvoir tout reprendre à zéro. En fait, aussi, peut-être, regardez, ça prend un petit peu tous les modes, le sexe qu'on a, est-ce qu'on est vraiment un homme, une femme, sous quelles conditions, le sexe qu'on fait, est-ce qu'on est vraiment hétérosexuel, homosexuel, est-ce qu'on peut être bisexuel, pansexuel, sous quelles modalités on couche, est-ce qu'on est monogame, est-ce qu'on est polyamoureux, est-ce qu'on est infidèle, comment on couche, qu'est-ce qu'on fait au lit, pourquoi on couche, est-ce qu'on consent. Et c'est vrai qu'il y a une espèce comme ça de redéfinition, de révolution sexuelle qui advient maintenant. Et bah, l'alternative, c'est la stagnation. Donc effectivement, des fois, c'est un peu difficile, mais c'est difficile vraiment de manière joyeuse et lumineuse, je trouve.
Alors Maya Mazorette, vous écrivez dans Le Monde depuis 5 ans maintenant ?
4 ans.
4 ans, et vos chroniques sont les plus lues et les plus commentées.
Et je comme pense par hasard.
Il y en a qui ont dû tordre le nez. C'est comme ça que je vous ai découvert, moi, dans Le Monde. Mais il y en a qui ont dû tordre le nez en voyant que vous
absolument.
Étiez... Et vous avez touché des gens avec vos chroniques ? Est-ce que vous avez aidé des gens ? Est-ce que des gens vous écrivent
bien
en disant,
sûr, bien
en disant
sûr,
ça m'a
temps.
Aidé, oui. ça m'a changé ma vie, ça, c'est vrai ?
Oui, et puis cette question qu'on avait tout à l'heure de savoir d'ailleurs comment pouvoir... confier à son partenaire des fantasmes liés à des pratiques comme ça qui ne sont pas toujours très acceptées, qui sont des fois un peu ridiculisées. Bien sûr, ça c'est une question que j'ai régulièrement. J'ai aussi des questions sur la libido, sur des personnes qui estiment ne pas désirer assez. Donc je ne réponds pas à tous les coups parce que sinon ça fait beaucoup de courriers. Mais quand les personnes sont un peu en souffrance, en fragilité, bien sûr que j'essaie de leur apporter des réponses. Même si des fois ça veut juste dire les renvoyer sur un article que j'ai déjà écrit.
Merci Maya Mazorette de passer nous voir.
On rappelle vos deux livres. Le sexe selon Maya et sortir du trou pour échapper à notre, et échapper à notre vision étriquée du sexe. Deux livres qui viennent de sortir aujourd'hui. Merci à vous.
Merci.
On vous laisse tout de suite en compagnie de Raphaël Duchemin pour écouter Le Monde Changer. Et nous, on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.